Sacré Journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Des dizaines de milliers d'Arméniens rassemblés dans la capitale Yerevan. Ils soutiennent l'opposant Nikol Pachinian, candidat au poste de Premier ministre par intérim, après la démission forcée de Serge Sarkissian. L'Agence internationale de l'énergie atomique balaye les accusations portées par Benjamin Netanyahou contre l'Iran. L'AIEA assure n'avoir aucune indication crédible d'activité liée au développement d'un engin nucléaire en Iran après 2009. En Inde, Bangalore craint la pénurie d'eau avec le boom des entreprises informatiques. La ville s'est métamorphosée, elle compte aujourd'hui 10 millions d'habitants et les nappes phréatiques sont surexploitées, c'est le dossier de ce journal. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, condamne les violences et dégradations à Paris en marge des manifestations du 1er mai. À Marseille, où l'ambiance était plus calme, Jean-Luc Mélenchon se montre optimiste, il croit à la jonction des forces. Nous partons tout de suite en Arménie où le Parlement est réuni en session extraordinaire. Il doit désigner le nouveau chef du gouvernement. Il avait d'abord choisi Serge Sarkissian, l'ancien président dont le second mandat venait de se terminer. Mais sous la pression de la rue, Serge Sarkissian a finalement renoncé. Régis Janté, vous vous trouvez à Yerevan et aujourd'hui encore la mobilisation était très forte dans la capitale arménienne.
Oui, effectivement, elle a été très forte et elle a été voulue par Nikol Pachinian, qui est celui qui, depuis le 13 mars, a emporté la majorité de l'Arménie derrière lui pour bouter hors du pouvoir le parti républicain arménien de Monsieur Sarkissian dont vous parliez. Il en a besoin pour faire pression sur les parlementaires de ce parti, justement, qui tiennent encore le Parlement, puisque il n'est pas question de sortir du cadre constitutionnel. On est dans une sorte de crise politique, si vous voulez, où il faut demander au parti républicain, en quelque sorte, de scier la branche sur laquelle il est pour nommer un Premier ministre qui veut leur peau. Alors c'est une situation assez compliquée aujourd'hui, et à l'heure où je vous parle, il est 20h à Yerevan, le Premier ministre n'a toujours pas été choisi, et le doute porte existe encore sur le fait que suffisamment de députés de ce parti républicain accepteront d'accéder à la demande du peuple et de nommer Nikol Pachinian Premier ministre ce 1er mai.
Donc on attend effectivement toujours cette désignation. Le suspense reste entier. Il est possible que les parlementaires résistent à la pression de la rue ?
Effectivement, c'est assez surprenant parce que le mouvement a été massif depuis le 13 mars et surtout ces derniers jours, conduisant notamment à la démission de l'homme fort du pays, Serge Sarkissian, lundi dernier, et lundi il y a 8 jours. Mais oui, il résiste toujours et le suspense est entier. On ne sait vraiment pas s'ils vont accéder à cette pression de la rue, si vous voulez. On ne sait pas bien pourquoi. Est-ce que c'est juste de la résistance ? C'est un régime très corrompu et ces gens ont tellement à perdre qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Au cas où Nikol Pachinian ne serait pas élu ce soir, cela reporterait le vote dans une semaine. Peut-être que ça laisserait à ce parti républicain arménien des marges de manœuvre pour essayer de négocier des compromis avec M. Pachinian. Mais effectivement, le suspense reste entier ce 1er mai au soir.
Et on va donc suivre avec beaucoup d'intérêt la suite des événements. Merci beaucoup Régis Janté, vous étiez en direct de Yerevan en Arménie. La réponse de l'AIEA à Benjamin Netanyahou. Hier, le Premier ministre israélien accusait l'Iran de continuer en secret un programme nucléaire. L'agence onusienne vient de démentir ces propos. Il n'y a aucune indication crédible d'activité en Iran liée au développement d'un engin nucléaire après 2009, assure l'Agence internationale de l'énergie atomique. La correspondance d'Isorias à Vienne.
C'est dans un communiqué très succinct que le porte-parole de l'AIEA répond aux accusations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sans que ce dernier ne soit jamais cité. L'AIEA affirme n'avoir aucune indication crédible d'activité nucléaire en Iran depuis 2009. L'agence onusienne cite dans ce communiqué le rapport établi en décembre 2015 par ses services, rapport qui avait conduit le Conseil des gouverneurs de l'AIEA à déclarer que l'examen de cette question était terminé. C'était sans compter sur les multiples remises en cause au niveau international. L'agence réitère donc sa position avec fermeté, comme elle l'avait fait en octobre dernier, lorsque le président américain Donald Trump avait refusé de certifier l'accord sur le nucléaire iranien. Le directeur de l'AIEA, Yukiya Amano, lui avait alors répondu que l'Iran respectait bien ses engagements, que le pays était soumis au système de vérification le plus solide au monde, avant d'ajouter que l'AIEA avait pu se rendre sur tous les lieux qu'il souhaitait inspecter.
Nouveau tweet furieux de Donald Trump ce matin. Il concerne les investigations de la justice sur les interférences russes dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Le New York Times a publié hier soir les questions que le procureur en charge de l'enquête compte poser au président américain. Donald Trump dénonce un crime inventé et une fuite illégale d'informations confidentielles, Grégory Phillips.
Oui, au total, le quotidien a publié la liste des 43 questions que le procureur spécial Robert Mueller, qui est en charge de l'enquête russe, souhaite poser au 45e président des États-Unis. Ces questions sont divisées, Aurélie, en quatre grands chapitres. D'abord, pourquoi s'être débarrassé du patron du FBI, James Comey? Ensuite, Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, poussé à la démission. Quels étaient exactement ses contacts avec les Russes à la fin de l'année 2016? Troisième volet, Jeff Sessions, l'actuel ministre de la Justice, et les raisons qui l'ont poussé à se récupérer de cette enquête. Enfin, quatrième chapitre, que savait Donald Trump de la réunion qui a été organisée le 9 juin 2016 à la Trump Tower avec une avocate moscovite. Tout ceci laisse donc penser que le procureur spécial oriente désormais son enquête vers une potentielle entrave à la justice de la part du président, qui, vous l'avez dit, a donc réagi de manière très virulente ce matin. Pas de collusion, chasse aux sorcières, a-t-il écrit dans un tweet. Il y a quelques semaines, Donald Trump avait indiqué qu'il était tout prêt à répondre aux questions du procureur Mueller, mais on ne sait pas s'il est toujours du même avis. Vu la teneur de sa réaction ce matin, il est peu probable que Donald Trump souhaite finalement participer à une telle audition, à moins que le procureur Mueller ne décide d'assigner le président devant un grand jury, mais on n'en est pas encore là.
Grégory Phillips en direct de Washington. Un nouveau coup dur pour Facebook à l'approche de sa grande conférence annuelle pour les développeurs. Le PDG de WhatsApp vient de claquer la porte. Yann Koum, cofondateur du service de messagerie instantanée, est en désaccord avec la stratégie de Facebook qui avait racheté WhatsApp en 2014. Bonsoir Eric Chavroux.
Bonsoir.
Ce qui est en jeu, d'après le Washington Post, c'est une nouvelle fois la conception de la confidentialité des données, au moment aussi où la messagerie chiffrée Telegram a maille à partir avec les autorités russes et iraniennes.
Soigner sa collection de Porsche et parfaire sa technique au frisbee, voilà officiellement deux nouvelles envies de Yann Koum. Sans préciser ses motivations, le cofondateur de WhatsApp a marqué son départ sur Facebook, le réseau social qui a racheté la messagerie il y a 4 ans. Mais d'après le Washington Post, Yann Koum serait donc en désaccord avec Facebook à propos de la confidentialité des données des utilisateurs et de longue date. Celui qui a fui l'Ukraine, adolescent, est resté marqué par le régime de surveillance soviétique. Et en 2012, il écrivait que la publicité est une insulte à l'intelligence. Il a conçu la messagerie chiffrée aux 1,5 milliard d'utilisateurs réguliers dans cet esprit, avec son ami Brian Acton. Acton, lui aussi parti il y a peu, et qui vient d'encourager à abandonner Facebook. Yann Koum se serait senti trahi par Mark Zuckerberg, qu'il ne cite même pas d'ailleurs dans son billet d'adieu. L'ancien crack en informatique sans le sou de devenu milliardaire, aurait mal vécu la condamnation par Bruxelles et la CNIL pour le partage de données d'utilisateurs entre WhatsApp et Facebook, car ce partage n'était pas prévu lors du rachat. Idem pour la volonté de monétiser avec, par exemple, le lancement récent de WhatsApp Business. Un analyste du secteur évoque un clash de culture massif. Au même moment, Telegram, autre célèbre messagerie chiffrée, née, elle, en Russie, vit deux clashs de culture, mais avec des autorités qui aimeraient bien y mettre leur nez. Moscou a commencé à la bloquer et près de 8000 personnes ont manifesté hier dans la capitale contre les restrictions sur Internet. Et la justice iranienne a, elle aussi, ordonné hier le blocage du réseau le plus populaire du pays.
Éric Chavroux, la question de l'accès à l'eau devient cruciale à Bangalore. C'est l'une des villes les plus modernes d'Inde, la Silicon Valley du sous-continent. Ces deux dernières décennies, Bangalore a connu une croissance phénoménale grâce à l'explosion des nouvelles technologies. Elle compte aujourd'hui près de 11 millions d'habitants et cela commence à poser des problèmes d'alimentation en eau. Bangalore n'ayant pas de rivière, près de la moitié de ses habitants pompent l'eau dans les nappes phréatiques, des nappes qui s'épuisent à grande vitesse. Alors la municipalité va chercher cette eau à grands frais, à plus de 100 km, dans une rivière qui sert également à irriguer les champs de tout le sud de l'Inde. Combien de temps cette situation pourra-t-elle durer avant que Bangalore, qui grandit extrêmement rapidement, n'affronte de graves pénuries en eau? C'est ce qu'a cherché à savoir Sébastien Farsi.
Nous sommes à l'embouchure du lac de Belandour, le plus grand lac de Bangalore. L'eau s'écoule ici en cascade et ce flot fait émerger une étrange mousse blanche qui recouvre 50 mètres carrés de ce lac. Ishwarappa est avec nous, il est militant dans le mouvement populaire pour le droit à l'eau.
Cette mousse est créée par les détergents et les produits chimiques qui sont relâchés dans le lac, ainsi que les eaux usées des usines. À la saison des pluies, la mousse se transforme en une vraie montagne. Elle déborde sur la route et on ne peut plus circuler.
Pendant l'été, la situation est encore pire. Le méthane rejeté par les eaux usées favorise la combustion des algues de surface. Résultat, une partie de ce lac de Belandour prend feu. La municipalité affirme qu'elle peut retraiter les deux tiers des eaux usées de cette ville de 11 millions d'habitants, mais certains contestent ce chiffre. Le professeur T.V. Ramachandra, directeur de recherche à l'Institut indien des sciences, estime qu'à peine un tiers de ces eaux usées sont retraitées, ce qui entraîne une grave pollution des nappes phréatiques.
Nous avons trouvé de hauts niveaux de nitrates ainsi que des métaux lourds dans ces eaux souterraines. Or, 45% de la population de Bangalore la consomme régulièrement. Les légumes verts cultivés en aval et les poissons des lacs sont également contaminés. Ils contiennent du chromium 6, du cadmium et du cuivre. Cela provoque des cancers. Les habitants ont également 20 fois plus de risques de souffrir d'insuffisance rénale qu'il y a 10 ans.
À la différence des autres villes indiennes, Bangalore n'a pas de rivière et a donc besoin de ses nappes phréatiques pour s'alimenter. Et cette eau se fait rare. Dans certains quartiers, on doit pomper jusqu'à 600 mètres de profondeur pour la trouver. Ces pompages couvrent la moitié des besoins. Le reste de l'eau de la ville vient du fleuve Kaveri, situé à plus de 100 km. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien, ou presque. Dans le bidonville de Jauli Mohalla, peuplé de recycleurs informels, Jagadishwari lutte pour avoir de l'eau potable.
Je pars à 7h du matin et je marche 2 km pour aller chercher de l'eau qui vient du fleuve Kaveri. Je fais ensuite la queue pendant 4 heures. Nous avons un puits dans le bidonville, mais l'eau du sous-sol est très dure. Quand nous la buvons, nous tombons malades.
Chaque année, la ville de Bangalore s'accroît de plus de 400 000 habitants, l'équivalent de la population de Toulouse. Pour faire face à cette pression, les autorités vont bientôt augmenter de 50% la quantité d'eau pompée du fleuve Kaveri. Mais ce modèle n'est pas durable, car cette eau est également essentielle pour toute l'agriculture de la région.
Sébastien Farcy, correspondant de France Culture et RFI en Inde. Il n'y a pas de jour férié quand on est président de la République. C'est sur un ton sec qu'Emmanuel Macron a répondu aux journalistes qui l'interrogeaient sur la légitimité de son voyage en Australie, un jour de mobilisation sociale en France. Mon travail n'est pas de regarder la télévision et de faire des commentaires d'actualité. Il est d'agir pour le pays chaque jour. Partout. Fin de citation. En ce 1er mai, les syndicats avaient battu le rappel, organisant des manifestations, projections de films et conférences de presse. La CGT a voulu mettre en avant les revendications communes, dire que la politique sociale du gouvernement ne correspond pas aux attentes, mais aucune action unitaire n'a pu être menée à leur choix.
Oui, et à la question de l'impossibilité actuelle d'une convergence, sinon des luttes au moins des syndicats, les porte-paroles situés tout à l'heure en tête de cortège ont relativisé Bernadette Groison de la FSU.
Je crois que c'est malheureusement devenu une tradition française, ces divisions syndicales. Nous avons des choses certes qui nous différencient, je crois que nous avons des choses aussi qui peuvent nous rapprocher. Il serait de bon ton, un 1er mai, de se parler et d'essayer déjà de chercher ce qui rassemble. La situation sociale, y compris la situation de notre démocratie sociale, est suffisamment préoccupante pour que chacun fasse cet effort et on regrette que ce soit pas le cas. Mais je vois que dans certains secteurs, comme dans la fonction publique, il est possible de faire l'unité puisque le 22 mai, il y aura toutes les fédérations de fonctionnaires. Donc cela nous rend plutôt optimistes pour l'avenir.
Et pour la CGT, le problème n'est pas tant dans l'élargissement du nombre de syndicats dans les défilés, il est plutôt dans l'élargissement de la contestation des salariés. Philippe Martinez.
Notre problème, c'est qu'il faut élargir. Il faut continuer à travailler pour élargir le nombre de salariés qui sont en colère, mais qui hésitent encore à participer. Alors, c'est pour ça qu'on profite de ces journées pour permettre à des salariés qui, s'ils font grève, ils sont licenciés sur le champ, de pouvoir participer, et donc on continue à réfléchir. Mais vous le savez, il y a encore des journées de programmées.
À côté du leader de la CGT, dans le cortège parisien, les responsables des syndicats étudiants et lycéens venus porter la contestation contre Parcoursup, et puis des parisiennes venues protester, elles, contre les dernières propositions gouvernementales sur plusieurs sujets, notamment l'asile et l'immigration. Perrine, par exemple, elle, la convergence des luttes, elle y croit.
Finalement, si on discute autour de nous, même avec des gens qui sont assez éloignés, même politiquement, même là, on parlait avec des CRS, on repart sur des fondamentaux et là on est allé trop loin dans la folie, quoi. Je pense que les gens vont se reconstituer à la fois individuellement et collectivement par plein de petites micro initiatives comme ça. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et que ça va vraiment bouger là. Je suis pleine d'espoir.
Perrine qui avec ses collègues et amis a déjà prévu de venir également manifester le 5 mai prochain à l'appel de plusieurs politiques de gauche.
Anne-Laure Chouin, et à Paris, les quelques 20 000 manifestants recensés par la préfecture de police ont eu du mal à défiler du fait de la présence de plusieurs centaines de militants encagoulés qui ont causé des dégradations tout au long du parcours. Près du pont d'Austerlitz, un restaurant McDonald's a été saccagé. Une voiture, un engin de travaux publics et des poubelles ont été incendiés. Quelques 200 interpellations sont en cours et le préfet de police a demandé au cortège syndical de changer d'itinéraire. La préfecture avait bien installé des points de contrôle à plusieurs endroits du cortège. Mais ce dispositif est jugé insuffisant par David Michaud, secrétaire national du syndicat de CRS UNSA Police.
À partir du moment où il y a une stratégie qui est mise en place avec des contrôles en début de manifestation, vous doutez bien que les gens qui vont vouloir venir causer des troubles ne vont pas aller sur ces contrôles. Ils viennent sur des rues adjacentes et la plupart du temps, ils sont déjà sur la route. Ils sont déjà sur le parcours et ils n'attendent pas que les contrôles se mettent en place. Il faut savoir aussi qu'ils, généralement, ils cachent aussi du matériel dans les entrées d'immeubles. Il y a des choses qui sont vraiment dissimulées. Donc voilà.
Donc pour vous, il y a une mauvaise gestion, une mauvaise anticipation de ce défilé du 1er mai à Paris ?
Ah ben bien sûr que oui, parce qu'à partir du moment où on voit qu'il y a 1200 personnes qui se permettent de causer des exactions comme on peut connaître là, c'est qu'automatiquement, il y a eu des failles. Et ce qu'il faut craindre, c'est la pré-manifestation, je peux vous dire.
David Michaud du syndicat UNSA Police sur France Info. C'est dans un climat plus paisible que le leader de la France Insoumise a pu manifester à Marseille. Parmi environ 4200 personnes, selon la police, plutôt satisfait de cette journée, Jean-Luc Mélenchon annonce un grand rassemblement unitaire pour très bientôt.
Je me bats pour qu'il y ait une jonction entre le mouvement social et les forces politiques. Et c'est en train de se faire. Là déjà, à Marseille, c'est fait. D'autres villes sont en train de le faire. Et puis, j'ai entendu avec beaucoup de bonheur M. Martinez, le secrétaire général de la CGT, dire une date commune, pourquoi pas. Donc on peut penser qu'on est en train d'avancer vers un grand rassemblement dont je ne connais pas la forme, hein, mais qui serait porté à la fois par les syndicats, le mouvement associatif qu'il ne faut pas perdre de vue, et les organisations politiques, c'est-à-dire une unité extrêmement ample sur le statut de la SNCF et le sort du service public. Voilà, c'est un beau 1er mai. De ce point de vue, pour moi, alors on n'aura rien réglé pour ce qui est de la division syndicale, hein, bon là on n'y peut rien, mais pour ce qui est de la jonction des forces, oui, c'est bien parti. Ça y est, c'est en train de se faire.
Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise au micro d'Isabelle Dor. Ça n'est pas à Paris mais sur la Côte d'Azur que Marine Le Pen a célébré le 1er mai. Après avoir déposé une gerbe au pied d'une statue de Jeanne d'Arc à Cannes, la présidente du Front National a retrouvé à Nice ses alliés européens, partisans d'une union des nations européennes. Mais ce rassemblement du mouvement Europe des Nations et des Libertés s'est déroulé en l'absence de deux têtes d'affiche, le chef de la Ligue italienne, Matteo Salvini, et le chef du Parti pour la Liberté néerlandais, Geert Wilders. Le reportage Janis d'Aurélien Colli.
Pour la Flandre, Gerolf Annemans.
1500 personnes et 8 partis eurosceptiques pour ce meeting au cœur de Nice. À la tribune, priorité aux invités, les Tchèques du SPD, les Bulgares de Volia, les Polonais du KNP, sans oublier les Autrichiens du FPO, entrés au gouvernement après les dernières élections.
On a laissé entrer aux frontières de l'Europe des millions de personnes venant du Proche-Orient et d'Afrique. Mais les conséquences ont été catastrophiques. Criminalité et terrorisme. Nous étions un parti d'opposition. Nous sommes devenus un parti au pouvoir. Comme parti au pouvoir, on doit faire des concessions.
Des compromis pour des alliances, pour des coalitions qui mènent ensuite au pouvoir. C'est l'exemple autrichien et italien que le Front National veut suivre. Dès les européennes de 2019, selon Marine Le Pen, qui nuance désormais son discours, l'Europe se changera de l'intérieur avec ses alliés et non plus en attendant de passer par l'Elysée.
Nous poursuivons donc une double ambition. En France, réaliser le score le plus haut possible avec une liste d'ouverture qui accueillera, je l'espère, au-delà du Front National, tous les courants nationaux et souverainistes d'où qu'ils viennent et tous ceux qui sont attachés à la nation. À l'échelon de l'Europe, nous pouvons changer l'Europe de l'Europe.
Dans la salle, les militants sont convaincus et pourtant on est bien loin de la dynamique de l'année dernière quand en pleine campagne électorale, le 1er mai, Marine Le Pen rassemblait près de 3000 personnes, porte de la Villette à Paris.
Jean-Marie Le Pen, lui, s'est montré fidèle à la tradition. Il s'est rendu ce matin au pied de la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris, mais seules 200 personnes l'accompagnaient. Le temps sera pluvieux demain matin sur la façade ouest du pays, ça ira mieux l'après-midi. Beaucoup de nuages dans l'est avec des ondées sur les Alpes et la Côte d'Azur, des éclaircies en revanche sur le centre. Les températures entre moins 1 et 5 degrés en général le matin, 10 à 14 sur la Côte d'Azur, 11 à 16 degrés l'après-midi sur le nord-ouest, 16 à 23 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Brault.